13h30 pétante sur l'antenne de Radio Béton. Si vous entendiez écouter Riff 70, l'émission classique rock sur l'antenne de Radio Béton, ben c'est raté, c'est normal puisque nous sommes en direct du WET au Théâtre Olympia, comme tous les ans, 7e édition, nous répondons présents et nous allons enchaîner de 13h30 à 16h30, 17h, eh bien une grande, très grande partie des compagnies qui participent à la programmation de ce WET. Venez nombreux, ça vous savez. Toutes les infos pratiques du WET, on en a déjà parlé quand on a pris l'antenne à 11h45, sont sur cdntour.fr, sur les petites plaquettes. On ne va pas redire l'intégralité du programme. Voilà, on a déjà une compagnie sur le plateau. Je monte les tranches, je prépare les micros de tout le monde. Je vais laisser la main à mon collègue Thomas.
Salut Thomas.
Salut Thomas.
Alors, effectivement, nouveau direct pour cette 7e édition du WET. Tu l'as dit, on va recevoir presque toutes les compagnies. C'est presque un strike puisqu'on aura toutes les compagnies sauf une. On aura aussi les étudiants qui participent au bain de théâtre. On aura aussi les lycéens et lycéennes qui participent au bain de théâtre. Et on commence, comme d'habitude, par trois des représentants des JTRC, c'est-à-dire Cécile, Marie et Romain. Non ?
Romain,
ouais, c'est ça. Alors, les JTRC, on va rappeler rapidement ce que c'est, s'il vous plaît, parce que c'est un dispositif un peu particulier, enfin particulier au sens où nationalement, peut-être, il n'y a pas beaucoup de ce type de manière d'être embauché par un théâtre pendant 2 ans lorsqu'on sort, ou pas d'ailleurs, d'études de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est ? Que ces JTRC-là ?
Eh bien oui, le JTRC, c'est donc la jeune troupe en région Centre-Val de Loire qui est spécifique ici au CDN de Tours où on est des jeunes actrices et acteurs. Je parle pas assez fort.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ah,
bien dans le micro.
Et où donc on est chacune sortie d'école supérieure de théâtre, que ce soit en tant que comédien-comédienne, il y a aussi une chargée de production et deux techniciens-techniciennes. Et pendant 2 ans, on participe aux créations des spectacles. On a été embauchés, entre autres, pour 2 spectacles qu'on a fait pendant la première saison. Et on est aussi là pour faire la programmation du WET, qu'on a travaillé pendant 1 an et demi,
oui,
à aller voir beaucoup de spectacles. Et on a aussi des temps de recherche, laboratoire, création au sein du CDN.
D'accord. Vous êtes combien de JTRC ?
On est 8.
D'accord.
5 comédiens, 2 techniciens-techniciennes, ouais, et une chargée de production.
Est-ce que vous pouvez parler très rapidement donc, tu as dit, Cécile, que vous aviez joué dans 2 spectacles, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez les citer ? Parce que je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs qui viennent au théâtre, oui, et qui voient ces spectacles.
Et oui, nous étions dans Grammaire des mammifères, un texte de William Pellier qui a été mis en scène par Jacques Vincet, le directeur, et dans La vie dure, qui est la création de 3 jeunes artistes associés qui sont Camille Dagen, Emma Depoix et Eddie Darangeau, et dans lequel on était les 5 qui sont le groupe qu'on a formé pour 2 ans.
Grammaire des mammifères, après avoir été représenté ici, a tourné et tourne encore peut-être d'ailleurs. Vous étiez là, je crois, en tournée juste il y a quelques jours.
Oui, c'est ça, les 2 dernières semaines, on était au Montfort à Paris, et ça a tourné un petit peu en région centre, à Poitiers, à Bourges, même à Vernouillet, un petit peu plus loin.
Ouais. Il y a un bon accueil pour ce spectacle ?
Bah ouais, c'est plutôt très bon accueil. Après, il y a forcément des gens à qui ça parle moins, parce que c'est un texte très, très spécifique, parfois un peu concept, mais il y a des gens qui se laissent embarquer par ce que ça propose de jeu, parce que c'est un peu une machine à jouer où les acteurs se prêtent, les actrices se prêtent à jouer à plein de personnages pour créer une grammaire de l'humain, et du coup c'est assez drôle, c'est très drôle à faire en tout cas. Et souvent il y a des très bons retours. Ouais.
Oui,
et
puis c'est vraiment plein d'une énergie qui est au plateau toujours présente, quoi. Il y a quelque chose qui est d'extrêmement vivant dans ce spectacle-là. Alors parlons un petit peu maintenant du travail que vous avez fait de programmation. Tu disais, Cécile, que c'est 1 an et demi de travail. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ça se passe ? Comment vous allez voir des spectacles ? Comment vous repérez ? Est-ce qu'on vous envoie des choses ? Est-ce que vous allez tout voir ? Est-ce que vous voyez des captas ? Est-ce que vous pourrez nous donner un peu les secrets de fabrication de cette programmation ?
Tout ça est très... en fait, tout ça est organisé et bordélique en même temps. C'est-à-dire que nous, on fait de la programmation à un endroit où c'est pas notre métier, et on fait de la programmation ou des repérages à des moments où on a le temps parmi toutes les autres missions dans le CDN, où on a le temps de pouvoir le faire. Donc du coup, quand on n'est pas en création, quand on n'est pas en carte blanche, quand on n'est pas en atelier d'éducation artistique et culturelle, là, on a le temps de faire ses repérages. Mmh. Donc on a une adresse mail de programmation du WET où on reçoit énormément d'invitations. Mmh. À côté de ça, il y a aussi la direction qui, des fois, entend des recommandations de professionnels qui connaissent et nous en font part. Et il y a aussi le fait de, des fois, quand on a le temps, de pouvoir partir à un endroit et on fait du repérage sauvage à un endroit donné pour essayer de voir aussi des gens qui ne candidateraient pas forcément.
C'est la 7e édition et j'imagine qu'il y a quelque chose qui a dû changer depuis cette édition, c'est que maintenant vous êtes, enfin le WET est extrêmement identifié comme un festival de la jeune création contemporaine de théâtre. Et du coup, j'imagine que bien plus que vos prédécesseuses et prédécesseurs, vous êtes sollicité. C'est-à-dire que vous recevez, j'imagine, beaucoup de propositions.
Ouais.
Qui émanent d'où alors ?
Alors, on a eu, je crois, 250 propositions de spectacles.
Ah ouais, d'accord.
Et on a discuté tous ensemble de près de 100 spectacles.
Qu'on a pu voir, quoi, parce que voilà, on peut pas tous les voir.
100 spectacles pour arriver à 9, c'est ça ?
8.
Ok. Fallait bien que je me plante à un moment. Ok. 8 spectacles. Comment on fait pour se mettre d'accord sur 8 spectacles ? Et là, ça veut dire aussi, le soubassement de ma question, c'est comment on fait une programmation ? Est-ce qu'on pense dans la cohérence de la programmation ou est-ce qu'on pense exclusivement coup de cœur ? Mmh. Est-ce qu'on pense la programmation sur, voilà, on va avoir ça qui va bien compléter ça, qui va être un peu différent de ça, qui va, voilà. J'aimerais que vous nous disiez un peu comment vous pensez ça.
Mais je crois que, on s'est posé plein de questions, mais qu'il y avait aussi chez nous le désir de faire une programmation qui, vu que c'est un festival de jeunes créations qui a lieu un seul week-end, un truc assez flash et assez intense, de ne pas faire une programmation à l'image d'une programmation d'un CDN, c'est-à-dire sur toute une saison, de ne pas se restreindre potentiellement à des règles de il faut un jeune public, il faut ci, il faut ça. D'essayer à chaque fois de, tout en pensant une dramaturgie de programmation, à savoir comment chaque spectacle peuvent ou non se répondre les uns les autres, comment, je crois qu'on a beaucoup fonctionné par coup de cœur, pas forcément par ovation générale à chaque fois.
Oui, il y a un truc où l'exercice, c'est un petit peu d'apporter un coup de cœur aux autres, c'est-à-dire parfois on va les voir à deux ou parfois même tout seul. Mmh. Et si on a vécu une expérience incroyable, c'est comme on essaie en réunion après d'en reparler aux autres et de refiler un petit peu les frissons qu'on a eus ou la beauté qu'on y a vue et de les convaincre là-dessus ou pas forcément. Mmh. Parfois il y a eu des débats interminables jusqu'à la fin sur des spectacles qui étaient en balance et il y a beaucoup de spectacles excellents où on était tous d'accord sur un spectacle qui était très très bien, par exemple, ça s'est arrivé souvent. Mmh. mais qui a pas été sélectionné à la fin parce que peut-être on a là par exemple les 8 spectacles, j'ai l'impression que c'est des tentatives très spécifique, quoi. C'est des tentatives.
C'est pas forcément.
Ça se trouve, c'est des. Ça peut être casse-gueule parfois, mais chacune des propositions sont vraiment des tentatives. Il y a pas tant de spectacles qui soient vraiment totalement assurément. Enfin, on se dit pas tel spectacle, c'est à coup sûr, ça va plaire au public, forcément. Il faut que ça crée un petit peu des divergences. Il faut que le public que ça clive un peu. Sinon c'est pas très c'est plus intéressant, quoi.
Vous êtes pas là pour être consensuel, quoi.
Je pense. Ouais.
J'ai l'impression, dans mon souvenir, on s'était dès le début, on s'était un peu dit de manière objective, c'est quoi un peu qui nous émeut dans un spectacle, qu'est-ce qu'on a envie de voir d'un spectacle, et on était tous à peu près d'accord sur l'idée qu'il y a une sorte de mise en danger et que quand on vient de nos théâtres, on s'installe pas au fond de son fauteuil, mais qu'il y a toujours un peu une sorte de redressement où on a l'impression de voir un objet qu'on n'a peut-être pas encore vu en face de nous. Et c'était un peu ce frisson-là dont on avait chacun et chacune envie. Et quand bien même là, sur cette programmation, les spectacles sont très très différents les uns des autres, il y a toujours ce rapport-là à l'ébranlement de la représentation, comment, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le rapport au public, que ce soit dans la dramaturgie, enfin, il y a toujours quelque chose qui étonne dans chacun de ces spectacles.
Vous êtes comédienne et comédien, donc habitué à ressentir probablement une tension avant d'entrer en scène. Là, vous êtes programmatrice et programmateur de spectacles. Est-ce qu'il y a pour vous, au week-end où ça se passe, c'est-à-dire maintenant, quelque chose de l'ordre d'une tension ou d'un trac, parce que c'est vous qui proposez ces spectacles-là,
oui,
après tout.
Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est c'est pas qu'on a peur que ça plaise pas, c'est que c'est plus d'artiste à artiste. Du coup, on a envie que les artistes soient le mieux accueillis possible, que on sait qu'en fait c'est très flash, du coup savoir si ils vont bien s'adapter dans les salles, si il va pas y avoir de pain technique. Enfin, c'est que des rapports un peu solidaires, j'ai l'impression, de vu qu'on connaît la réalité de cette chose-là, de ce que ça fait d'installer un spectacle, et qui plus est de l'installer pour une durée très courte. Oui. On sait à quel point ça peut être dangereux aussi pour un spectacle de pas prendre la température du lieu longtemps. Mmh. Du coup, nous, on est plus soucieux et accompagnant pour que chacun et chacune soit au plus confortable, même si c'est très très flash, quoi.
Et on se disait avec Romain hier que on a eu l'impression, parce qu'on était deux à avoir vu le spectacle qui passait hier, qui s'appelle Sous l'orme, et on était au fond de la salle, et on se disait, c'est l'impression de dire à un copain, on dit, il faut absolument que tu vois ce film, j'ai adoré, et au moment où tu mets le film, d'un coup tu te dis, oh là là là, attends, est-ce que ça va lui plaire, tu gâtes toutes les réactions, et nous on était là au fond à se dire, c'est la même chose mais pour 300 personnes qui sont dans la salle, quoi.
On va le recevoir juste après, comme c'est un spectacle qui est passé hier soir, on a la chance d'avoir pu le voir, donc de parler du coup en direct de choses qu'on a vues, ce qui ne va pas être le cas pour la majorité des compagnies. Une dernière question, le WED donc à 7 ans, c'était probablement l'un des premiers, disons parmi les premiers j'imagine, enfin on en a déjà parlé, mais de festival de jeunes créations contemporaines. Est-ce que vous savez, vous, quelle est l'importance de ce festival maintenant, quelle est la visibilité de ce festival? Est-ce que vous en avez une petite idée?
Ouais, en fait, je crois que ce qui fait les grandes spécificités de ce festival, notamment en France, c'est que déjà, le fait que les programmateurs et programmatrices soient au même endroit de leur parcours que celles et ceux qui sont programmés, et ce qui, en fait, fait une richesse, parce que nos envies de théâtre, on les fait, mais aussi, du coup, on les donne à voir. Et ça, c'est assez... c'est hyper gratifiant, et je crois que les compagnies, on a des discussions hyper riches avec les compagnies. Et c'est aussi que pendant les rencontres de la jeune création hier, ça a été soulevé que c'est un des rares festivals, enfin beaucoup de festivals maintenant en France, notamment de l'émergence, ont aussi derrière un prix ou un lauréat. Et là où le WET n'a absolument pas cette question là et où tous les spectacles arrivent avec sur un pied d'égalité, et du coup le rapport même entre les rencontres, les discussions, elle se fait hyper sainement, il n'y a pas de rapport de compétition, et donc tout le monde arrive et tout le monde est lauréat en fait en arrivant ici.
C'est vrai que c'est un festival mais dans lequel il n'y a pas de palmarès. Merci infiniment d'être venu nous parler de cette programmation. Marie-Cécile et Romain, bon festival.
Alors je vais jouer le maître du temps à 13h43 sur les antennes de Radio Béton en direct du Théâtre Olympia pour ce WET, une petite transition musicale avec une nouveauté qui vient de sortir, Death and Vanilla, Out for Magic. 13h45 à l'antenne de la radio en béton, 13h46 même. Nous sommes au WET, c'est Théâtre Olympia, en plein centre-ville de Tours, pour la 7e fois et la 7e édition. Et nous enchaînons, on peut le dire comme ça, un marathon des compagnies qui se produisent dans la programmation du week-end théâtre jeune au Théâtre Olympia. Ça, je l'ai déjà dit. Vous êtes avec Thomas. Thomas C, mais il y a aussi Thomas A qui est en train de caler les derniers réglages avec une compagnie. J'allume les micros et je leur laisse quasiment la main bientôt dans 3, 2, 1 seconde.
Merci Thomas. On est en train effectivement de faire d'ajuster le planning. Alors, donc on commence maintenant à recevoir les compagnies, puisqu'on a reçu les JTRC qui sont responsables de la programmation de cette 7e édition du WET, et on commence à recevoir les compagnies, et ça tombe très bien parce que on reçoit Charlie. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Et je dis que ça tombe bien parce que c'est un spectacle qui s'est donné hier soir ici au Théâtre Olympia, et donc on va pouvoir, ce qui est rarement le cas dans le cadre de ce festival pour notre direct à nous, de parler d'un spectacle qu'on a vu. Alors Charlie, tu es l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle. D'abord, on commence toujours comme ça, c'est à présenter la compagnie, s'il y en a une, ou toi. Si je ne me trompe pas, donc la compagnie dont tu fais partie, alors, c'est une compagnie, ouais.
Oui, c'est une compagnie, ouais.
Qui s'appelle
Le Cinquième Quart.
D'accord.
C'est dans ce cadre-là que le spectacle il a été créé. C'est une compagnie qui a été créée en confondation avec Katia Ferreira. Voilà, donc c'était notre première rencontre qui a fondé la compagnie et avec laquelle on a pu créer entre autres mon précédent spectacle, le spectacle de Katia Ferreira qui était l'adaptation de Virgin Suicide,
d'accord,
qui s'appelait First Trip. Ouais.
Ok, donc là, Sous l'Orme. Alors, Sous l'Orme, c'est un seul en scène et c'est pas toi, c'est Guillaume Costanza, qui est sur scène, c'est
oui.
Ça mais bon, voilà, toi tu l'as écrit et tu le mets en scène, c'est un monologue d'une heure et demie à peu près.
Ouais.
Je pars de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, hein. Avec un homme donc qui est seul en scène, un écran derrière lui, qui projette des images plus ou moins abstraites, sauf une assez concrète à la fin du spectacle. Et puis, il est sur un praticable carré. Et sur ce praticable-là, il y a quelques néons qui font varier un peu l'intensité lumineuse. Et cet homme parle avec des voix, des incarnations qui changent durant tout le monologue. Avec des voix qui parfois sont transformées électroniquement, parfois c'est la sienne. Et il change aussi de manière de s'exprimer, il change de ton, y compris même... on peut passer de quelque chose d'extrêmement grave à quelque chose de très comique, ou en tout cas d'amusant. Voilà, il y a tout ça dans ce spectacle. Il y a quelque chose qui peut beaucoup faire penser à... Je sais pas, une poésie à l'Outre-Amont, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une espèce de flux verbal dans lequel se jouent des choses qui peuvent être difficiles, voire extrêmement violentes. Et puis cet homme, alors je le mets dès la présentation parce que c'est vraiment une question pour moi, cet homme il a, pendant à peu près tout le spectacle, une posture qui est une posture masculine très affirmée. Et j'imagine que quelque chose s'est construit dans l'écriture aussi là-dessus et sur l'interrogation de cette posture-là. Donc voilà, moi je pars de ce que je vois, dont je suis pas du tout sûr évidemment d'avoir compris toutes les tenants et les aboutissants de ce spectacle, mais j'aimerais que tu puisses nous dire quel était le projet et pourquoi on voit ce qu'on voit là.
Oui, bah, au début moi je m'étais intéressé aux figures dites de la radicalisation, mm-hmm, qu'elles soient de tous côtés, religieuses, politiques, etc. Et donc j'ai écrit un texte à l'adresse de Guillaume Costanza, justement dans cette perspective-là, et il s'agissait de pouvoir essayer de comprendre ces phénomènes-là, mais de l'intérieur cette fois-ci, d'un point de vue subjectif, c'est-à-dire se dire mais c'est quoi les logiques qui préside à ce genre de comportement d'existence ou de non-existence ou de désir de mort.
D'accord.
Et inévitablement, pour revenir à la question viriliste dont vous venez de parler, c'est un point majeur, c'est-à-dire que la question de la détestation, la haine du féminin est majeure, avec toutes les figures héroïques, phalliques. Voilà, donc le spectacle est entre autres une tentative d'exposition de ces logiques-là, en vue de pouvoir montrer comment ce qui sous-tend ces logiques-là, voilà.
Mais ça veut dire, pardon, hein, mais j'essaie de bien comprendre, ça veut dire que ce qu'on voit, du coup, au plateau et ce qu'on entend, c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'un monologue intérieur de quelqu'un qui est en train de radicaliser sa pensée et peut-être son action.
C'est quelqu'un qui se donne complètement une figure imaginaire qu'il appelle l'ogre,
ouais,
qui va lui permettre de pouvoir ennoblir son suicide, c'est-à-dire de donner une cause ou une raison héroïque au fait qu'il n'arrive pas à habiter et vivre dans le monde.
Mais alors comment vous avez travaillé ces éléments contre, le, contre lesquels il a envie de se battre ou contre lesquels il s'insurge? Est-ce qu'il y a des éléments concrets? Est-ce que ce sont des éléments qui sont amenés dans le texte de manière, représentative ou métaphorique, au sens où la métaphore viendrait subsumer un peu l'ensemble des éléments pour lesquels on pourrait se battre?
Ouais. L'idée, c'était vraiment déjà de comprendre les motifs intérieurs qui animaient ces logiques-là, et après de pouvoir les traduire sous forme allégorique ou métaphorique, de manière à avoir une sensation plus pulsionnelle de ces problématiques-là et moins sémantique ou sociale. Ou c'était d'essayer de sentir le pouls, si je puis dire, de la pensée qui animait cette figure fictive, quoi.
Alors de l'orme à l'ogre, il n'y a que quelques sons qui changent.
Et ça suffit des fois.
Ben oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que peut représenter cette figure de l'orme d'abord, parce que c'est le titre, ou de l'ogre, ou peut-être que les deux ont besoin d'être expliqués ensemble
d'ailleurs. Ouais, au début je voulais écrire un conte, donc ça me semblait important de repartir du lieu un peu archaïque comme ça que pouvait être la forêt, c'est-à-dire dans laquelle l'enfant il se perd et il fait l'expérience des premiers dangers, des expériences sous une forme allégorique. Et aussi en français on a une expression qui est attendre sous l'orme, qui est une expression qui vient du Moyen-Âge, et qui en fait désigne le moment où au Moyen-Âge les villageois attendaient la justice sous l'orme sur la place du village, qui devait être rendu par un chevalier ou un seigneur. Et en fait, ce seigneur ne venant jamais, ils attendaient toujours une justice qui ne venait pas, qui a donné l'expression attendre sous l'orme, c'est-à-dire se prendre un lapin.
D'accord.
Donc ça, c'est un pan de l'explication. Et il y a l'autre explication aussi, la ressemblance entre orme et ogre, et aussi sous l'orme, c'est aussi sous le mort, ça. Anagramme. Voilà.
Il y a quelque chose qui est assez notable, c'est que au plateau, début et fin de spectacle sont en fait des inversions, des espèces de symétrie, et à chaque fois ça procède d'une ouverture depuis le chaos ou d'une fermeture vers le chaos. Il y a quelque chose qui sort comme ça d'une fumée qui est mise au plateau et qui vient nous donner cette espèce d'incertitude du lieu, d'incertitude de l'instant, de nuée au sens propre, quoi. Et du coup, c'est très, très étonnant et très intéressant de vous en entendre parler, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement concret dans ce que vous mettez dans l'intention du spectacle. Et pourtant, au plateau, il y a quelque chose de très abstrait dans la mise en scène dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis dans ces nuées-là et dans ce chaos-là.
Oui, parce que je pense qu'il n'est pas possible de représenter objectivement ce genre de phénomène ni quoi que ce soit. Donc il s'agit d'adopter un point de vue, et le point de vue qu'on a adopté pour le spectacle, c'est depuis le point de vue du personnage qui se fantasme en train de renaître. Donc en fait, tout le spectacle, c'est comme si on était dans l'œil de son fantasme sur lui-même. C'est pas nous qui le voyons objectivement, c'est tel qu'il se voit, où il se rêve, où il se fantasme.
D'accord. Est-ce qu'il y a des textes qui, pour vous, ont été pourvoyeurs d'écriture pour ce spectacle-là ?
Il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Ouais.
Ouais, j'ai beaucoup étudié déjà ces phénomènes-là avant d'en parler, pour pas dire n'importe quoi.
Ouais.
Il y a peut-être un philosophe en partie que je nomme dans la feuille d'intention, dans la note d'intention, qui est Fethi Ben Slama, qui est un psychanalyste et philosophe qui a travaillé spécifiquement sur ces questions-là. Il y a Farhad Khosrow Kavar, il y a tout le théâtre shakespearien. Enfin, on peut démultiplier cette question-là. Elle est presque classique, j'ai envie de dire.
Mais du coup, dans le théâtre shakespearien, par exemple, qu'est-ce qui peut venir s'infuser dans votre travail?
Vous prenez le monologue de Richard III. Le monologue inaugural de Richard III, c'est ni plus ni moins qu'un homme qui s'estime parjuré de naissance par la nature et qui décide de se venger en rendant au centuple le préjudice qu'on lui a fait. Et le fait de naître. C'est-à-dire que sa naissance est un affront.
Mais dans le monologue de Richard III, l'adresse de Richard III, c'est une adresse aussi à une espèce de... comment dire ? C'est pas une cosmogonie, mais c'est une espèce de lignée, comme ça, dont il serait l'héritier et qui fonde le fondement purement tragique, au sens propre du terme. Et ici, votre personnage, lui, s'adresse à des entités dont on n'a que peu d'éléments pour savoir quelles elles sont. Ouais. C'est un monologue, donc on pourrait dire, ok, il s'adresse à lui-même. Mais ça me semble réducteur de le dire comme ça.
Et vous diriez quoi, vous, alors ?
Moi, je dirais rien, parce que je n'ai pas envie de faire d'hypothèse qui tomberait à côté. Mais vous, comment vous l'avez conçu à l'écriture ?
Par rapport aux différentes adresses, vous voulez dire ?
Ouais.
Je pense qu'il s'adresse à cette figure qui s'appelle l'ogre. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont on a travaillé avec Guillaume, c'était que chacune des phrases ou chacun de ses mouvements ne soit pas quelque chose qui rajoute au monde, mais qui l'enlève. Pour une raison très simple, c'est qu'il pense pouvoir renaître par la mort de lui et des autres, via le l'acte qu'il va commettre.
Mmh.
Ouais. Donc chaque chose qu'il dit ou qu'il fait est une part de lui qui cède à cette figure imaginaire qui, pense-t-il, va le recomposer parfaitement après la mort.
Et alors est-ce que, et ce sera ma dernière question parce qu'on on doit s'arrêter là malheureusement, mais est-ce que du coup cette renaître par la mort, c'est pour lui dans le fantasme de revivre par une mort concrète, ou est-ce que ça veut dire aussi l'idée qu'il faille accepter, traverser la mort? Ben pour être au présent, quoi.
Justement, il se suicide. Il y a une petite phrase dans l'écriture du désastre qui dit « Il se suicida inapte à mourir. »
Ok. Merci beaucoup, Charlie Breton. Où se joue le spectacle la prochaine fois? Parce que là, on ne peut plus le voir, mais vous avez eu
la... À Perpignan, à la scène nationale.
D'accord.
Ouais, de l'archipel.
Eh ben, merci d'avoir eu l'amabilité de venir, même si le spectacle s'est joué hier soir.
Merci beaucoup.
Merci bien. Alors, le maître du temps dit 13h57 sur l'antenne de Radio Béton. Et je le dis à nouveau, nous sommes ensemble pour encore 16h30 ou 17h, Thomas ?
Au moins 16h30.
Au moins 16h30, voilà. C'est un beau marathon qui s'est instauré. Encore bravo pour la qualité des échanges. J'ai l'impression d'avoir assisté à une très belle joute verbale, mon cher Thomas.
Ah bon, une joute, carrément.
Ouais, enfin, c'est pas méchant quand je dis ça, mais de beaux propos. Notamment, le passage Rissard 3 m'a épaté. Après, on reçoit qui et quand, tu sais ?
Alors, ouais, on va recevoir la compagnie qui a monté le spectacle que je viens de voir, enfin que j'ai vu ce matin, qui s'appelle Amer Amer, le spectacle. Et ensuite, nous allons recevoir les étudiants du bain de théâtre. Voilà, et après, je vous dirai la suite.
On a un petit laps de temps.
On a le temps d'une bonne pause musicale. Et puis, à un moment, on reviendra aussi avec Jacques Vincet, qui a été interrogé à l'antenne tout à l'heure par amis de
Bien sûr.
Des Poches Sous les Yeux. Mais on parlera d'autres choses avec lui. Voilà, et on va recevoir toutes les compagnies, ou presque.
Eh bien, la suite musicale pour faire cette interlude, c'est The Wave, W-A-E-V-E. C'est une next big thing en Angleterre avec un morceau signé par Graham Coxon des Blur et la chanteuse des Pipettes. Et c'est vraiment un gros coup de cœur en ce moment.
Still
The Wave, W-A-E-V-E, la grosse sortie anglaise du moment, comme interlude musical avant de retourner sur le plateau de la cafétéria du Théâtre Olympia pour la 7e édition du WET avec une nouvelle. Alors ce n'est pas une compagnie, c'est un binôme.
Oh bien ouais,
j'ai écouté.
Effectivement, merci Thomas. Ouais, effectivement, on a la chance et le plaisir de recevoir Elsa et Jérôme qui y présentent ici au festival le spectacle Amer Amer et qu'on a pu voir aussi. C'est le deuxième spectacle qu'on a pu voir puisqu'il se joue dans la salle de répétition et que cette salle de répétition jouait ce matin. Oui, il y a un petit peu de bruit derrière parce qu'on a un barman, Marc-André, qui est en train de faire du lait chaud. Bonjour d'abord, bonjour. Salut. Elsa et Jérôme. Alors, Amer Amer, c'est un spectacle qui nous vient de Bruxelles, c'est ça? Vous pourriez vous présenter en deux mots, vous qui n'êtes pas une compagnie mais un binôme?
Bah, on est un binôme belgo-luxembourgeois. Moi,
d'accord.
Je suis luxembourgeoise.
Ah, ok.
Et on s'est rencontrés à Bruxelles.
D'accord.
On a fait nos études supérieures de théâtre là-bas.
Ok.
On a tous les deux commencé, enfin, quand on a fait une partie de notre formation au Conservatoire Royal de Bruxelles. C'est, mm-hmm. c'est là qu'on s'est rencontrés.
Moi, après, j'ai bifurqué vers l'écriture que j'ai fait à l'INSAS aussi à Bruxelles.
D'accord.
Et moi, après, en master, je suis partie au casque à Gand. Donc, j'ai fait ma deuxième partie de ma formation en flamand.
Voilà, mais c'est une rencontre qui a fonctionné. Depuis, on a travaillé ensemble dans différents dispositifs. Des fois, moi, j'ai été acteur dans des mises en scène d'Elsa.
Ah ouais.
J'ai été actrice dans des projets à moi. On a tous les deux été acteurs et actrices dans des projets d'autres. Hein, voilà.
Et c'est le premier spectacle que vous faites véritablement seulement à deux?
Tout à fait.
Ouais. Ouais,
enfin, à deux et demi, parce qu'il y a Tom.
Voilà, on porte à deux ce spectacle. Ouais. Après, il y a d'autres personnes qui sont impliquées avec nous dans le projet.
Alors parlons-en des implications d'autres personnes, parce que le spectacle quand même se fonde là-dessus. Donc ce qu'on voit, quand d'abord on arrive dans la salle de répétition du Théâtre Olympia, pour les spectatrices et spectateurs, c'est une petite salle, hein, c'est une petite salle comme son nom l'indique de répétition, il y a des gradins qui sont mis au fond, je sais pas, c'est une jauge de combien?
Une jauge de 49, là on a déjà sur jauge 42, on
d'accord.
peut monter jusqu'à 42.
Donc voilà, quarantaine de personnes, on arrive, vous êtes déjà en place, vous êtes assis tous les deux sur le plateau. Il y a des délimitations qui sont mises sur le parquet du plateau avec des espèces de gaffeurs orange qui impliquent pour nous de dire tiens, il y a quelque chose qui va se jouer dans l'espace ou dans le déploiement ou dans le déplacement des éléments. Et puis le spectacle commence dans le silence le plus total, il y a des surtitres qui indiquent que vous attendez que quelqu'une ou quelqu'un viennent te rejoindre, Jérôme, puisque c'est toi qui regardes le public à ce moment-là. Toi, Elsa, tu es dans une place qui, entre la régie, la mise en scène, le plateau, on ne sait pas exactement.
Tourner vers le plateau.
Ouais, t'es sur une sorte de frontière. Et donc, ces surtitres indiquent que vous attendez à ce que quelqu'un vienne au plateau pour jouer ta mère. Dans une scène dont je crois c'est indiqué dans le surtitre que ça va se passer dans une voiture.
Tout à fait.
Et il se trouve que quelqu'un vient, et que ce quelqu'un, évidemment, à chaque fois qu'on assiste à ça au théâtre, on se demande toujours est-ce que c'est préparé ou pas, est-ce que cette personne est véritablement une personne du public ou pas. Et il se trouve qu'assez vite, on se rend compte que c'est vraiment une personne du public, et que cette personne n'avait pas prémédité le fait probablement de monter au plateau. Et alors là, on assiste du coup à quelque chose dont il faut décrire le dispositif langagier, parce qu'il me paraît que il me semble que c'est là-dessus aussi que tient beaucoup le spectacle, c'est que comme cette personne qui arrive sur le plateau ne sait absolument rien de ce qui va se passer, toi, tu lui donnes la réplique tout le temps, et en fait, chaque réplique du spectacle est répétée deux fois. Une fois par toi, et une fois par cette personne-là. Mais le troublant de l'histoire, c'est que quand tu prononces une phrase, c'est peut-être une phrase qui est prononcée par le fils, c'est-à-dire par toi, ou par la mère, c'est-à-dire par la personne qui est au plateau. Mais quel que soit l'interlocutrice ou l'interlocuteur qui doit dire cette phrase, elles sont toujours dites dans les deux ordres, enfin dans le même ordre. Toi, puis la personne qui est au plateau. Ce qui crée un dispositif mental pour nous, spectatrices et spectateurs, très étonnant, parce qu'on a besoin d'assigner la parole aux comédiennes ou aux comédiens qui est sur scène. Bon, voilà ce que j'ai vu, voilà la manière dont je pourrais le décrire. Et puis, alors, chose particulière aussi, je crois que j'avais jamais vu ça, c'est que cette personne qui vient du public est au plateau tout le temps, pendant l'heure et quart du spectacle. Bon, alors moi, vraiment, la première question, c'est ça, hein, d'où ça procède? Est-ce que ça procède d'une volonté d'écriture? Est-ce que ça procède d'une volonté thématique? Une mère, un fils, est-ce que ça procède d'un dispositif? Voilà. D'où vous créez ce dispositif très particulier?
Pour la répétition, tu peux dire?
Pour tout.
Ah, okay.
Répétition et le fait que vous construisez un spectacle avec une personne qui vient du public okay. entièrement.
Bah alors, je vais commencer par la répétition. Pendant l'écriture, il y a eu une recherche de comment est-ce qu'on peut amener cette personne à jouer.
Ouais.
Et puisqu'on savait qu'il y aurait un texte,
ouais,
que ce ne serait pas de l'impro total, la question était, bon, voilà, comment l'inviter à dire des mots que nous avons prévus.
Ouais.
Et donc, pendant que je l'écrivais, moi, je l'ai testé quelques fois avec des personnes. J'avais essayé différents dispositifs où on enregistrait des répliques, mm-hmm, on les repassait et puis on répondait.
Mm-hmm.
Y avait un dispositif où je disais les choses et où je les répétais. J'avais testé plusieurs choses. Et en fait, après, je me suis dit, OK, ce qui me branche là-dedans, c'est vraiment déjà que tout se passe d'humain à humain. Donc, qu'il n'y ait pas l'intermédiaire d'une feuille de papier ou d'une oreillette et qu'il y ait cette chose de transmission. Et puis, ben voilà, ce qui est dans la répétition est fascinant, c'est la façon dont ça circule entre qui dit quoi, et au final, comme tu disais, on ne sait pas quelle réplique est attribuée à qui, et il y a la répétition de chaque réplique par moi et par la personne, mais après il y a aussi la répétition de la séquence qui elle-même se répète, et à chaque nouvelle répétition de la séquence, en tant que spectateuriste, tu peux l'entendre et le voir différemment, tu dis, ah, en fait non, c'est lui qui disait ça à l'autre, et pas l'autre qui disait ça à lui. Et donc ça ouvre des possibilités de comment des nouvelles fictions apparaissent et comment elles apparaissent différemment pour chaque spectateuriste.
Ce qui est très étonnant aussi, c'est que dans cette répétition, et là je ne parle pas de la répétition de ligne à ligne, de réplique à réplique, mais dans la répétition de dialogues qui peut-être se redisent aussi de manière un peu différente dans l'ensemble du spectacle, j'ai entendu des spectatrices et spectateurs sortir en disant « mais en fait c'est ça notre langage quotidien, c'est ça ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'en fait on se répète tout le temps ». Est-ce que c'est un peu ça qui est au cœur de votre spectacle ?
Je te laisse répondre à ça, du coup.
Bah, oui, c'est sûr que la quotidienneté, que ce qu'il y avait à déployer dans la relation mère-fils, c'est les impossibles dans lesquels on est un peu bloqué et qu'on essaye de dépasser à chaque fois. Et dans la tentative de dépasser, on se retrouve toujours devant les mêmes blocages. Voilà, à pas savoir comment dépasser cette chose-là. Et pour revenir à qu'est-ce qui est dans les intentions de départ qui nous a amené à chercher ce dispositif, c'est à part de... Avant que Jérôme parte en résidence d'écriture, on était en résidence de recherche tous les deux. Et c'était une résidence où on était partis sur qu'est-ce qui sont nos convictions, à quoi est-ce qu'on peut encore croire au théâtre quand on rentre dans une salle de théâtre, qu'est-ce qui n'est pas du pipeau. Et qu'est-ce qui est quelque chose qui est réel, qui se passe, qui est dans une tentative de circulation de quelque chose qui se passe réellement entre toutes les personnes qui sont là, donc pas juste les personnes au plateau, mais aussi les personnes du public. Et donc on pensait très fort à un dispositif qui permettait d'impliquer, de mettre tout le monde dans un même bateau. Et au moment de la résidence, on avait eu cette image qu'il fallait commencer par un choc.
D'accord.
Il fallait choquer le public, enfin mettre le public devant quelque chose de très fragilisant.
Et donc ça, l'incarnation de ça, c'est de prendre quelqu'un du public et de la mettre sur scène, ou c'est
ça,
autre
c'est
chose.
Voilà, ça c'est une dans le processus d'écriture, c'est une forme de réponse à cette chose-là que Jérôme a trouvée avec cette proposition-là. Et dans cette fragilité-là, du coup, on peut essayer de dépasser les impossibles. Parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous déplace par rapport à l'habitude de la relation parent-enfant et qui nous met à un endroit de nouveau dialogue possible.
Mais ce nouveau dialogue, il a du mal à s'incarner sur scène. Enfin, quand je dis du mal, c'est dans la relation entre les deux personnages. Mais peut-être cette relation change-t-elle d'ailleurs, mais enfin, on reviendra à ça en fonction de la personne qui est au plateau avec toi. Mais... il y a une phrase à la fin qui est prononcée, je ne voudrais pas la trahir, c'est je crois quelque chose comme « à qui tu parles et pour dire quoi ?» Et j'ai l'impression qu'en fait, l'intention du... Enfin, moi je me suis dit à ce moment-là, tiens oui, ok, je crois que j'ai à peu près compris là où on voulait nous amener. J'ai l'impression que c'est un spectacle qui parle de ce que beaucoup de spectacles théâtraux ou beaucoup d'écriture théâtrale a pu aussi essayer de faire dans les années 50, dans les années 60, c'est interroger la communication en fait, tout simplement. Et là, dans un dispositif très particulier, très étonnant, parce que peut-être pas très interrogé justement, qui est la relation mère-fils ou fils-mère dans quelque chose, dans quoi quelque chose ne se dit pas en fait. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, quelque chose ne s'est toujours pas dit et on revient sur les mêmes mots. Mais peut-être que c'est une lecture qui ne va pas du tout avec vos intentions.
Non, c'est une lecture qui fait partie des intentions. Et par rapport à ce que tu disais de, bah, finalement dans la relation qu'on voit, on la dépasse pas tant que ça, cette impossibilité de parler, c'est tout à fait vrai. Là où ce que aussi le dispositif tente à faire, c'est de voir jusqu'où la personne qui est montée a envie de respecter ce schéma proposé,
ouais,
et jusqu'où aussi elle a envie de se dire, mais en fait non, maintenant je veux plus répéter ce schéma et j'ai envie de faire quelque chose qui en sorte, que ce soit en prenant des libertés par rapport à la répétition et en fait, ouais, disant autre chose, ou par le biais de ses actions, la façon dont elle circule au plateau, dont elle se sert de la scéno, des choses à faire et tout ça. Et dans les intentions du projet, il y a aussi quel lien il y a entre la difficulté à faire un geste ou à entrer en action et la difficulté à dire. Et le projet s'est beaucoup écrit autour de comment on peut créer un dispositif qui crée l'articulation entre impossibilité à entrer en action et impossibilité à dire. Et comment ces deux-là peuvent être liés, en fait.
Est-ce qu'il est arrivé, justement, que des personnes que vous faisiez monter au plateau, à un moment donné, refusent de répéter ou prennent des libertés par rapport au texte ?
Ça arrive assez souvent, ouais.
Ouais.
Enfin, après, on est toujours dans une espèce de ratio. Combien de personnes, ouais, restent dans la répétition, supportent la répétition, aiment la répétition,
ouais.
Combien de personnes, au bout d'un moment, ne supportent plus et décident de faire autre chose. Je ne sais pas, on est dans un ratio 70-30.
D'accord. 70 qui vont...
plutôt restent dans, okay, la répétition et dans laquelle se déploie donc, le texte, la dramaturgie,
oui,
comme nous, on l'a écrit, qui est, comme on dit, un espèce de plan A.
Ouais.
Mais bon, plan A ne veut pas forcément dire plan préféré, pas du tout. Et des gens qui décident de sortir de ça. Et à ce moment-là, où on bascule ensemble dans un inconnu, où nous aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui est la prochaine chose qui va se passer.
Comment on fait pour accueillir ça en amont du spectacle, c'est-à-dire à l'écriture et dans le travail de préparation, de scénographie et de dramaturgie, cet inconnu-là qui est lié aux conditions de représentation?
En faisant, okay, juste en répète, on invite tout le temps des inconnus et des inconnus à venir travailler avec l'acteur, parce que là, moi, je reprends le rôle où on a travaillé avec Tom,
ouais,
Hills, qui n'était pas disponible pour cette série-ci, et qui continuera quand il sera dispo. Et donc juste on a fait, et on a découvert beaucoup de choses comme ça.
Et à force de faire, c'est comme si vous balisiez un peu le hasard, quoi.
Pas qu'on balise le hasard, mais c'est comme si on avait une espèce de toolbox, ouais,
ouais.
Enfin, en fait, on a, tout ce qui arrive en répétition, ouais, devient une possibilité. Pour, puis après, il y a toujours des possibilités qui s'ajoutent, des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui se passent. Mais en fait, il y a comme aussi une mémoire de toutes les personnes qui sont venues avant, qui rajoutent pour nous des possibilités. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un moment où il y a un coup de téléphone. Mmh. Aujourd'hui, la personne a décidé de ne pas répondre au téléphone. C'est rare, mais ça nous est déjà arrivé. Mais l'histoire qui est racontée au téléphone peut se retrouver à un autre moment. Moi, je peux trouver du coup une autre façon de placer cette histoire. Aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu, mais d'autres moments, ça a eu lieu.
Après,
il y a des possibles.
Il y a des possibles qu'on porte en nous et qui, moi aussi, là, quand je suis sur le plateau, élargit mon champ des possibles et donc m'offre de la liberté, parce qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, on le porte en nous et tout à coup, tu dis, ah ben oui, moi, je ne l'aurais pas fait. Mais en fait, c'est là, c'est possible et ça te transforme de représentation en représentation. Mais la dramaturgie de spectacle n'est pas non plus pensée pour qu'on retombe systématiquement sur nos pied et en terrain ferme. Donc ce qu'on demande à Tom quand il le fait et ce que moi je cherche quand je le fais, c'est de soi-même chercher un endroit de fragilité où en fait on peut encore être, où on peut se laisser bousculer. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de temps vide et de temps mort, parce que si on est dans l'action, on sait qu'on entre dans nos schémas et qu'on tombe sur les rails. Alors que quand juste tu te mets dans une position où tu réussis à attendre et où en plus c'est challenging pour tout le monde, pour la personne qui est montée, pour les gens qui regardent, juste on attend ensemble et on voit ce qui jaillit, là c'est un endroit où encore on se laisse déraillé en fait, et où il y a d'autres choses qui jaillissent, et ça c'est hyper important qu'on se permette, qu'on continue à dérailler, sinon tout le dispositif ne sert plus à rien si on est safe.
Mais comme tu parlais de la scénographie aussi elle porte des possibles, mais
ouais,
elle est presque aussi, bien sûr qu'elle porte plein de possibles,
ouais,
plein de choses qui se déploient dans un spectacle, qui se déploient pas dans une autre version, mais elle est presque aussi limitée que la parole et ce qui se dit dans la parole. Elle, la scénographie permet des gestes tout aussi quotidiens et tout aussi banals, banaux que...
C'est très étonnant comme dispositif et comme spectacle. On vous encourage vraiment à venir le voir. Vous rejouez encore combien de fois ce spectacle à Mer à Mer?
Trois fois.
Trois
ce
fois.
Soir, demain matin et demain soir.
C'est dans la salle de répétition du Théâtre Olympia. Merci beaucoup, Jérôme et Elsa, d'être venus en plateau pour nous en parler.
Merci.
Et bonne suite de festival à vous.
Merci Radio Béton.
Vous aussi.
Merci à vous. Alors mon cher Thomas, on est bien au niveau timing ou pas là?
Ouais, on a deux petites minutes de retard.
On a 2 petites minutes de retard. Ok, je passe un petit morceau instrumental. À tout de suite. Sur le 93.6 Radio Béton, on n'aime pas faire des fades, mais on m'a obligé à en faire un sur ce morceau de Mondo 77 de Looper, un ex-échappé de Belle and Sebastian il y a fort longtemps, qui a été célèbre. Bon, je vais pas vous dire tout ça. Thomas, les micros sont ouverts.
Merci.
Et c'est à toi.
Merci Thomas. Alors effectivement, troisième compagnie que nous recevons aujourd'hui, et nous recevons Joachim Modet, c'est ça?
C'est ça.
Bonjour Joachim, et tu viens nous parler d'un spectacle qui s'appelle Welcome. Alors il faut quand même le dire, parce que c'est pas très radiophonique, mais dans le titre du spectacle tel qu'il est écrit, le Well et Barré et reste le com.
Voilà. C'est ça.
Avant de parler du spectacle, est-ce que tu peux nous présenter la compagnie de laquelle tu fais partie, d'où elle vient et voilà, où vous en êtes et qu'est-ce que représente ce spectacle dans le parcours de la compagnie?
Ok. Donc moi je suis Joachim Maudet, je suis chorégraphe et donc chorégraphe de la compagnie Les Vagues, qui a été créée en 2017 à Rennes. En parallèle en fait de mon parcours d'interprète, où je suis encore interprète pour d'autres compagnies de danse, j'ai voulu monter une structure pour travailler autour du corps et de la voix, et de la relation et de la dissociation du corps et de la voix.
D'accord.
Donc, je m'intéresse à la ventriloquie.
Ouais.
Et Welcome est ma troisième création. Voilà, donc c'est vraiment un cheminement sur cette recherche autour de la dissociation corps-voix et qu'est-ce qu'on peut, quelle absurdité, quel humour peut émaner de cette pratique. Voilà.
Et quand tu dis que tu t'intéresses à la ventriloquie, c'est-à-dire que tu la pratiques aussi ?
On la pratique, ouais. Voilà, c'est ça. On est en autodidacte. Et donc là, sur Welcome, on est trois ventriloques, danseurs ventriloques. Donc la ventriloquie, c'est quoi ? C'est pouvoir avoir un texte qui sort d'un corps sans avoir d'impact sur le corps ou sur le visage. Mmh. Donc, des visages inexpressifs qui pourtant ont des voix chaleureuses, virevoltantes, qui passent d'un corps à un autre. Donc on ne sait plus à un moment donné qui parle et d'où vient le son. Et donc moi voilà, ce qui m'intéresse dans cette recherche là c'est justement de poser un trouble et de voir aussi du coup l'absurdité qui émerge entre des corps qui sont inexpressifs, froids du coup, avec des visages inexpressifs et pour le coup avoir des dialogues qui varient d'émotions, d'atmosphère, de couleurs, de voix à travers ces corps émetteurs quoi.
On va essayer de faire un sort tout de suite à peut-être au petit mystère qui entoure la ventriloquie.
Oui.
On parle de voix, mais on a l'habitude de considérer que la voix passe par la vibration des cordes vocales. Alors du coup, d'où elle vient dans la ventriloquie ?
Alors elle vient de des cordes vocales,
aussi.
Du souffle.
Ouais.
La ventriloquie se pratique avec les lèvres entrouvertes. Mm-hmm. Donc il y a quand même un filet d'air qui sort et qui rentre du corps et qui permet en fait de pouvoir avoir de la vibration et donc une vibration sur de l'air et donc de la voix et donc des paroles quoi.
D'accord. Et pourquoi le ventre alors ? Parce que du coup on est sur une respiration très ventrale, enfin, on dit ventriloquie, ça vient de ventre j'imagine.
Oui. Alors ventre parce que mine de rien la ventriloquie impose le fait d'avoir le minimum d'impact sur le corps, donc le minimum de mouvement de la cage, et donc du coup le ventre permet d'avoir cette expansion et cette prise d'air qui est logiquement prise au niveau de la cage et qui permet, on va dire, de flouter au maximum, quoi.
Lorsqu'on pense ventriloquie, on pense souvent à la ventriloquie populaire qui se pratique avec des marionnettes.
Voilà.
Le spectacle, je ne l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Non.
Alors, est-ce que tu pourrais expliquer le dispositif ?
Alors, déjà, nous, à l'intérieur, on se pense autant marionnette que marionnettiste. Mmh. Donc, en fait, la ventriloquie nous permet de créer des corps avec plusieurs histoires. C'est-à-dire qu'il y a une histoire physique, donc de posture, et à l'intérieur de ce corps, de cette enveloppe peau, il y aurait une histoire vocale qui serait en contrepoint de l'histoire physique. Donc on travaille un peu sur cette double narration et sur le fait d'avoir plusieurs couches narratives au sein d'un même corps. Mmh. Donc voilà, et donc on est trois sur le plateau en lenteur. Donc la lenteur permet aussi de pouvoir justement avoir une différence de dynamique entre un corps qui est lent et des voix qui sont très rapides. Et donc on est constamment les yeux rivés vers le public. Donc on est dans une adresse non adressée, parce qu'on regarde le public mais on lui parle pas, mais en même temps il y a des voix qui sortent de nos corps et voilà, et on est dans un white box, donc dans une espèce de rampe blanche, sur une espèce de rampe blanche qui est peu profonde et qui du coup pour moi appuie cette sensation de deux dimensions, c'est-à-dire qu'on est un peu plaqué contre le tissu blanc et voilà, on est un peu sur des rails quoi.
Tu parles de texte, tu parles de voix, enfin tu parles de voix mais tu parles pas de texte justement, je me suis trompé, tu parles de voix mais pas de texte. Est-ce qu'il y a du texte ?
Oui, il y a du texte.
D'où vient-il ce texte ? Quel est-il ?
Alors le texte a été écrit du coup avec Pauline Bigot et Sophie Lèbre qui sont sur le plateau avec moi, donc ça a été une écriture de texte collégial, sachant que vu qu'on n'est pas des ventriloques professionnels, il y a certaines lettres qu'on ne peut pas dire,
Ah d'accord.
Donc ça a été, je ne vais pas dire les lettres, comme ouais. ça met un peu une petite enquête pour les spectateurs, spectatrices. Mais voilà, du coup, il y a certaines lettres qu'on ne peut pas dire, et donc ça a été une double contrainte d'écrire un texte sans ces trois lettres, il y en a trois.
D'accord.
Voilà, et l'idée c'était d'avoir une succession de situations théâtrales. Ouais. Donc il n'y a pas une dramaturgie globale, c'est pas l'histoire d'une personne qui se déroule durant toute la pièce. L'idée c'était de pouvoir passer d'une situation à une autre, comme si on prenait un peu le pouls du monde, comme si on pouvait autant être le jour de l'anniversaire d'une personne, et puis d'un coup, paf, on bascule, on est dans une émission de radio, et puis pouf, on rebascule, on est dans un coup de téléphone, et puis enfin voilà. L'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait transformer, glisser, et d'avoir une succession comme ça de situations théâtrales qui s'enchevêtrent les unes aux autres.
Et qu'est-ce que cette succession-là et le rapport qu'il y a entre le corps et la voix, ou justement l'absence ouais. de rapport peut-être visuel, et dans quelle vision du monde, de quelle vision du monde ça procède, de quelle approche de ouais. notre quotidien, de notre, des significations du monde et dans lequel on se meut, de quoi ça ouais. procède ?
En tout cas, nous, dans l'écriture du texte, on s'est vraiment saisi d'un patrimoine commun, mmh. une situation que tout le monde peut vivre. Et l'idée, voilà, c'était de mettre de l'espace entre le bruit du monde et nos corps, mmh. sachant que sur scène, on a ces corps qui sont impassibles et le bruit du monde qui serait comme un nuage sonore au-dessus d'eux, en fait. Voilà, donc c'est une espèce de mise en perspective comme ça de toutes les situations qui sont très quotidiennes, en fait. C'est un texte qui est... les situations sont très quotidiennes les unes aux autres.
Qu'est-ce que ça implique physiquement de jouer comme ça, c'est-à-dire ouais. de jouer mais en perdant un peu l'habitude de la voix et du ouais. jeu habituel. C'est plus difficile, c'est une autre type de performance.
C'est vraiment c'est une autre ouais, complètement. C'est une pratique de contrainte.
Ouais.
Dans le sens où en plus d'être les yeux rivés vers le public constamment, de ne pas cligner des yeux, parce que c'est aussi ça notre contrainte, d'être dans de la lenteur, d'avoir le visage impassible, d'être autant, d'être en même temps dans un déroulé physique qui a cette exigence-là de la lenteur, et d'être dans des voix qui sont dynamiques, virevoltantes, avec un rythme différent que celle du corps. Ça nous amène, nous, à vivre une expérience sensorielle à l'intérieur de cette pièce, et qui, j'espère... Je pense qu'il y a une sorte d'empathie. Les premières réactions du public sont toujours questionnantes, parce que je pense que on vient troubler le moyen d'expression commun qui est le corps et la voix, et le fait que quand on parle, notre corps suit la voix. Et là, on joue justement avec ça. Et donc, dès le début, il y a tout de suite un questionnement, et ça fait souvent rire les gens, alors que la situation n'est pas forcément drôle. Mmh. Mais en tout cas, la pratique amène cet humour et cette absurdité.
On va devoir s'arrêter là. C'est Welcome, c'est ce soir à 21h30 ici, c'est et c'est demain à 14h si je ne m'abuse.
Voilà,
ce sont les deux représentations dans la grande salle Bernard-Marie Coltès. Merci beaucoup Joachim d'être venu nous parler de ce spectacle. C'est Welcome.
Merci bien. Une toute petite respiration musicale sur ce 93.6 en direct du CDNT Abigail de Frankie Cosmos.
I'm
n'a pas été fédé, Frankie Cosmos, à l'instant sur l'antenne de Radio Béton avec Abigail. Nous sommes toujours dans le cadre du WET 7e édition en direct du Théâtre Olympia. Je te redonne la main avec un auditoire complet, Thomas.
Ouais, ça en enchaîne beaucoup. Après, ça va être beaucoup moins dense, mais on remercie beaucoup, beaucoup les étudiantes du bain de théâtre d'être avec nous ici. Et elles me montrent, elles sont adorables, elles me montrent leurs prénoms sur leurs petites accréditations, Théa, Chloé et Léa. Alors, vous êtes en master art du spectacle, si je ne m'abuse, c'est ça ? Est-ce que c'est la première année que vous assistez au WET en tant que bain de théâtre, d'abord ?
Pas
vraiment.
Non, pas du tout, parce
pas
que du
tout.
Coup, j'ai déjà participé l'année dernière.
Théa. Ouais.
Donc, dans ma licence LCER anglais, option art du spectacle.
Ouais.
Et du coup, j'avais déjà participé au WET.
En tant que spectatrice ?
Oui.
Ouais, d'accord.
Bah pareil, du coup, on a fait l'édition de l'année dernière ensemble avec Théa et on a été encadré pareil par Sacha Beaumont,
oui,
qui nous a accompagnés pendant toute la durée du festival, comme cette année.
Et vous êtes quand même revenu. Eh ben,
bien,
quel
sûr.
Courage, Léa.
Et moi, c'est ma première année. J'étais pas à Tours l'année dernière, donc c'est ma première année au WET.
Qui parmi vous voudrait bien nous expliquer en quoi consiste ce bain de théâtre ? Vous voyez tous les spectacles ? Oui, non.
Malheureusement, non.
Non.
Parce que je loupe, par exemple, ceux de ce soir. Malheureusement, très malheureusement et à contre-cœur. Mais pour tenter d'expliquer ce qu'est le WET, c'est un festival...
Le bain de théâtre. Parce que WET, pour le coup, on sait très bien, mais...
Alors, le bain de théâtre, c'est un accueil des étudiants. Du coup, cette année, ça accueille des lycéens et les étudiants et étudiantes du master culture et médiation des arts du spectacle. Il y a aussi des collégiens cette année, si je ne m'abuse. Et donc, du coup, en fait, c'est une immersion totale dans la programmation du WET sur tout le week-end. Donc, à compter de vendredi, on est tous ensemble tout le week-end pour assister, que ce soit à des conférences comme il y a pu avoir vendredi, ou alors aussi on a du coup toutes les représentations. On a des moments d'échange avec les professionnels, on a des moments d'échange entre nous aussi pour partager ce qu'on a pu ressentir, ce qu'on a pu penser et ce qu'on attend des autres spectacles. C'est très enivrant et c'est très très cool.
Alors Léa et Théa, vous pourriez nous dire peut-être ce que vous en faites de ces spectacles-là. Vous les voyez et qu'est-ce qui se passe après ? Vous débriefez, vous en discutez, les critiquez ?
Dès qu'on sort du spectacle, on se rejoint.
Ouais.
On parle et puis voilà, on se débrief, qu'est-ce que t'as compris, est-ce que t'as aimé, enfin c'est vraiment nos avis personnels et notre ressenti en gros.
Est-ce que ça vise une restitution plus tard ? Vous en faites quelque chose en termes universitaires de ce bain de théâtre là ?
Alors on peut faire une critique il me semble,
ouais.
Mais c'est pas obligatoire,
voilà.
Donc c'est vraiment ce qu'on veut.
Tiens, bien près du micro.
En fonction de ce qu'on veut faire.
D'accord. Alors parlons peut-être, venons-en aux choses extrêmement concrètes, des choses que vous avez déjà pu voir. Alors vous avez assisté à quoi ? Vous avez vu Amer peut-être ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Vous avez vu Sous l'Orme ?
Oui.
Ouais. Vous avez vu L'Île aux Pères ? Non.
Non.
Ou... non qu'est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu un troisième spectacle ou pas ?
Non.
Pour l'instant, Sous l'Orme et Amer.
D'accord. Est-ce que peut-être on pourrait, je sais pas, l'une ou l'un d'entre vous parler d'un de ces deux spectacles-là, mais vraiment. Voilà.
Amère, Chloé,
je pense.
Je peux ?
Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de Sous l'Orme.
Ok. On peut commencer par Sous l'Orme. Auquel cas, j'ai
non,
aussi
non, mais j'ai, non, non. Je dis ça, c'est une plaisanterie. Vraiment, je vous parlais absolument ce que vous voulez.
Alors, pour ma part, j'ai un
mais si on
sacré
peut parler de deux, c'est cool.
Coup de cœur pour Amère,
ouais.
Si ce n'est un des meilleurs spectacles que j'ai pu voir depuis.
Donc, on vient de les recevoir. Hein, ils viennent de nous parler du spectacle.
Super. Alors, c'est d'autant mieux. J'espère qu'ils écoutent. Non, c'était vraiment. C'était en fait un cocon de bienveillance et de douceur avec beaucoup de légèreté, d'humour, et en fait c'était assez bouleversant pour ma part, j'en suis vraiment ressortie avec les larmes aux yeux, j'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin, mais c'était vraiment quelque chose de très très doux. L'expérience a été aussi bonne pour nous en tant que spectateurs et spectatrices que pour la personne du coup qui est venue du public pour jouer le rôle de la mère, parce que du coup c'est un spectacle immersif qui accueille deux comédiens dont un qui n'est pas professionnel. Et du coup, en fait, c'est vraiment... les représentations sont très uniques et c'est ce qui les rend d'autant plus riches, en fait, car on ressort avec une expérience qui nous est propre. Et le fait de pouvoir en parler avec d'autres personnes qui ont vu d'autres représentations, je pense que ça va enrichir d'autant plus l'expérience qu'on a pu avoir ce matin et qui était déjà très... qui était merveilleuse, en fait. C'était vraiment très, très chouette. La scénographie est superbe, d'ailleurs. C'est ce qui nous a marqué aussi.
Ouais.
Je te vois opiner du chef.
Oui, bah,
ouais, même sentiment.
Je suis carrément d'accord avec elle, du coup, et je suis super déçue de ne pas pouvoir voir d'autres représentations de Amer.
Oui, pour avoir une...
Bah,
d'autres personnes qui vont au plateau et voir comment le spectacle varie.
Exactement, ouais. Chaleureuse. Je ne sais pas si c'est parce que les lumières étaient jaunes, je ne sais pas. Mais la décoration, j'ai adoré la décoration. C'est ce que j'ai dit dès que je suis rentrée. J'ai dit, mais waouh, la scénographie est incroyable. Et le jeu d'acteur aussi, c'était très... voilà, c'est... J'ai adoré.
Est-ce que tu veux nous en parler aussi?
Je pense que c'était aussi intimiste, oui.
Ouais.
Et je suis d'accord avec Sophie, la scénographie était incroyable.
Et qu'est-ce que tu as trouvé incroyable dans la scénographie, justement?
Je pense, je rejoins un peu Théa sur les décors, qui étaient vraiment... c'était années 70 un petit peu, et années 80. En plus, je trouvais que les comédiens entre eux, il y avait ouais. une alchimie.
Qui n'est pas évident, hein, parce qu'effectivement, ils ne se connaissent pas.
Exact. Et donc c'était très bienveillant l'un avec l'autre et en même temps c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours parce que parfois il y avait des gestes minuscules. Théa en a parlé plus tard, mais
oui, par exemple quand il a mis le coussin sous la tête de... enfin c'est pas pour spoiler le spectacle, mais c'était vraiment des petits gestes entre les acteurs et tu te dis mais faut avoir l'œil pour remarquer ce qu'ils font ça et... Super.
Il y a une relation de confiance qui se crée entre les deux en fait, qui est palpable et qui est surtout qui grandit au fur et à mesure de la pièce. Donc à la fin, on se retrouve juste avec deux personnes qui s'amusent entre elles et qui se donnent beaucoup de tendresse dans la violence des mots qui sont utilisés aussi. C'est toujours c'est encadré avec beaucoup d'amour et les gestes sont très réfléchis et c'est une belle entente en fait. C'est très beau à voir.
Bah, on va s'arrêter sur ces belles paroles parce que vous avez parlé avec beaucoup beaucoup d'enthousiasme de ce spectacle qui s'appelle Amer Amer et ça rejoue tout à l'heure à 18h et ça rejoue demain à 10h30 et ça rejoue demain encore à 19h. Donc il y a encore l'occasion de le voir. Merci beaucoup Léa, Théa et, attendez, et Chloé, voilà, d'être venu nous parler. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup plus de temps parce qu'on doit recevoir Jacques Vincet avant qu'il aille au même spectacle que vous, puisque vous allez voir Sirène, je crois. Qui se joue à l'Opéra dans 20 minutes. Merci infiniment à tous les trois d'être venus. Et bon festival.
Merci.